SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio SBS, il est 13h. Avec vous aujourd'hui, Léo Roussel, j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant cette nouvelle heure d'émission en français. Au programme de ce jeudi 30 mai, on vous proposera comme d'habitude votre journal pour faire un point sur les dernières actualités. On parlera également de sport et de Roland-Garros avec Christophe Mallet avant de retrouver Nicolas Perpich pour le journal de l'économie. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez la deuxième partie de l'interview du groupe de musique français R. On vous proposera également de partir à Paris à quelques semaines des Jeux Olympiques pour voir comment la ville tente de faciliter les transports pour les personnes à mobilité réduite. Mais d'abord, c'est l'heure de votre journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 30 mai, Israël poursuit sa progression au cœur de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Malgré l'arrêt de la Cour internationale de justice ordonnant l'arrêt des opérations militaires, Tsahal poursuit les combats. Certains pays souhaitent l'adoption d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Des perquisitions hier au Parlement européen à une semaine des élections européennes. L'ex-assistant parlementaire de plusieurs eurodéputés d'extrême droite est soupçonné dans une affaire d'ingérence russe. Et puis en Australie, le ministre de l'Agriculture a annoncé ce jeudi la levée par la Chine de nouvelles sanctions sur les exportations australiennes. Plusieurs suspensions visant des exportateurs australiens de viande bovine ont été levées par Pékin. L'armée israélienne poursuit sa progression au cœur de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, où de nombreux Palestiniens ont trouvé refuge depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Une avancée des chars de Tsahal, malgré l'arrêt de la Cour internationale de justice qui a ordonné la semaine passée l'arrêt de toute opération militaire. À l'ONU, on cherche une solution pour tenter d'arrêter les violences sur place. L'Algérie et la France estiment qu'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité est nécessaire. Après celle adoptée à l'unanimité mardi, condamnant les frappes israéliennes sur un camp de déplacés palestiniens à Rafah. Une condamnation plus sévère semble néanmoins complexe en raison du positionnement américain. On écoute les précisions de Carrie Noten, correspondante à New York pour Radio France Internationale.
Face à l'indignation publique des 14 autres membres du Conseil de sécurité, les États-Unis se sont alignés. L'ambassadeur américain adjoint Robert Wood est ainsi revenu sur l'attaque meurtrière à Rafah, une erreur selon Israël qui mécontente Washington, consciente que les forces israéliennes auraient pu opter pour des frappes plus chirurgicales.
Nous avons exhorté Israël à faire davantage pour protéger les vies palestiniennes innocentes et entreprendre une enquête rapide, transparente et complète. Comme nous l'avons déjà dit, Israël a le droit de se défendre contre le Hamas. Mais Israël a également l'obligation de protéger les civils. Le fait que les dirigeants et les combattants du Hamas se cachent parmi les civils ne diminue en rien l'obligation pour Israël de mener ses opérations conformément au droit international humanitaire. Israël doit faire davantage pour protéger les Palestiniens innocents à Gaza.
Palestinians in Gaza.
Une tape sur les doigts, mais Washington ne serait pas prête à une condamnation plus forte pour autant. La France a répété la nécessité pour le Conseil à se prononcer via une nouvelle résolution. Un projet a été proposé par l'Algérie et est en discussion depuis hier soir. Mais les États-Unis continuent à dire qu'un nouveau texte ne changerait rien à la situation sur le terrain qui reste prioritaire pour eux, sous-entendant qu'un autre veto pourrait être opposé.
Et de nouvelles manifestations pour protester contre les bombardements israéliens à Rafah ont eu lieu mercredi soir à Paris. 4500 personnes se sont rassemblées selon la police pour une troisième soirée de mobilisation consécutive. Ces manifestations font suite aux bombardements israéliens sur des camps de déplacés palestiniens à Rafah qui ont fait au moins 66 morts en l'espace de 3 jours. À une semaine des élections européennes, le Parlement européen est frappé par une affaire de soupçon d'ingérence russe. Le parquet fédéral belge a annoncé mercredi que des perquisitions ont été menées à Bruxelles et à Strasbourg dans le cadre d'un scandale impliquant l'ancien collaborateur parlementaire d'eurodéputé d'extrême droite néerlandais, français et allemand. Il est soupçonné d'avoir été un relais d'influence de Moscou via le site internet pro-russe Voice of Europe. Les précisions de Pierre Benazet pour RFI.
Ce mardi, la police fédérale belge a perquisitionné les locaux du Parlement européen à Bruxelles. Au même moment, la police française effectuait elle aussi une perquisition au Parlement, au siège de Strasbourg. À chaque fois, il s'agissait des bureaux de Marcel de Graaf, un eurodéputé néerlandais d'extrême droite. Le parquet fédéral de Belgique soupçonne son assistant parlementaire, Guillaume Padoura, d'avoir, je cite, « joué un rôle important dans l'affaire Voice of Europe ». Il avait auparavant été l'assistant parlementaire d'un eurodéputé français du Rassemblement national, mais il a aussi et surtout travaillé pour l'allemand Maximilian Krah, un autre assistant parlementaire de cet eurodéputé de l'AFD, le parti d'extrême droite, est actuellement sous les verrous en Allemagne pour soupçon d'espionnage au profit de la Chine. Mais dans l'affaire Voice of Europe, c'est bien l'ingérence pro-russe qu'il s'agit. Le Premier ministre belge avait révélé au moment de l'éclatement de l'affaire que Voice of Europe était un cheval de Troie destiné à faire élire des candidats favorables à la Russie.
Les délibérations ont commencé à Manhattan dans le cadre du procès de Donald Trump. Les 12 membres du jury ont été renvoyés chez eux après environ 4h30 de délibération mercredi. Celles-ci doivent reprendre aujourd'hui. L'ancien président américain est accusé d'avoir falsifié des documents pour dissimuler un versement d'argent à l'actrice pornographique Stormy Daniels peu avant l'élection présidentielle américaine de 2016 afin d'acheter son silence au sujet d'une relation sexuelle survenue en 2006. On ne sait pas encore combien de temps les jurés mettront à rendre leur verdict. Donald Trump dément lui tout acte répréhensible et dénonce un procès truqué.
In listening to the charges from the judge, who's, as you know, very conflicted and corrupt because of the confliction, very, very corrupt. Mother Teresa could not beat these charges. These charges are rigged. The whole thing is rigged. The whole country's a mess between the borders and fake elections, and you have a trial like this.
Et dans le reste de l'actualité internationale, les bureaux de vote ont fermé en Afrique du Sud à la fin d'une journée d'élections qui pourrait se révéler historique. Celle-ci pourrait bien voir le Congrès national africain, anciennement mené par Nelson Mandela, perdre sa majorité pour la première fois depuis 30 ans et la fin de l'apartheid. Les Sud-Africains votaient pour un nouveau Parlement national ainsi que pour les assemblées législatives provinciales. Un fort taux d'abstention était redouté, il a finalement été moins important que prévu. Et puis, élection toujours, le Parlement britannique a été officiellement dissous ce mercredi. Le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé la semaine passée la tenue d'élections législatives anticipées le 4 juillet prochain. Élections qui pourraient voir le retour au pouvoir des travaillistes après 14 ans d'absence. La Chine lève de nouvelles sanctions concernant les exportations australiennes. Pékin a annoncé la fin des suspensions imposées aux exportateurs australiens de viande bovine. Une nouvelle qui intervient avant les discussions prévues le mois prochain entre le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue chinois Li Qiang. Le ministre australien de l'agriculture Murray Watt a indiqué mercredi que Pékin avait bien levé les interdictions d'exportation pesant jusqu'alors sur 5 établissements australiens de transformation de viande bovine.
And in more good news, I can reveal that last night we received notification that 5 more Australian meat processing establishments have had their suspensions removed, meaning they can resume exports to China immediately.
Et puis des soupçons de piratage en Australie. Le gouvernement fédéral a annoncé ce jeudi que son bureau de cybersécurité travaillait actuellement avec la plateforme de billetterie en ligne américaine Ticketmaster après qu'un groupe de pirates informatiques a affirmé avoir accédé aux données de 560 millions de clients. Le groupe de hackers de renommée mondiale baptisé les Shiny Hunters a publié des preuves du piratage sur le dark web, affirmant avoir récupéré les données personnelles de 560 millions de clients. Donc, les cybercriminels ont demandé une rançon de 500 000 dollars, soit quelque 460 000 euros. Les données volées incluraient des noms, des adresses, des emails, des numéros de téléphone et les quatre derniers chiffres des numéros de carte de crédit des clients, ainsi que leur date d'expiration. Un point sur la météo avant de refermer ce journal. Le temps est ensoleillé ce jeudi du côté de Sydney, où jusqu'à 24 degrés sont attendus. Ce ne sera en revanche pas le cas pour la majeure partie des villes australiennes. Des averses sont attendues à Brisbane malgré les 24 degrés attendus au thermomètre. Des chutes de pluie qui concerneront également Melbourne, où les maximales devraient être de 21 degrés, mais aussi Hobart en Tasmanie, Adélaïde ou encore Perth en Australie occidentale, où les températures devraient stagner autour des 20 degrés. Pas de pluie à Darwin en revanche, malgré un temps nuageux qui verra le thermomètre grimper à 33 degrés. Il est 13h15, vous êtes bien sur SBS French. Tout de suite, c'est l'heure du journal des sports avec Christophe Mallet.
Journal des sports et on parle de tennis. Pour débuter, les internationaux de France de Roland-Garros sont en ce moment même, vous le savez très certainement. On a déjà quelques résultats qualifiés pour le troisième tour. Nous avons Rublev, le russe, qui s'est qualifié face à Martinez. Tsitsipas, le grec, qui s'est défait de Altmaier. Alcaraz, numéro 3 dans les têtes de série, qui s'est défait de Young et donc sera donc au troisième tour. Et on connaît l'affiche d'un des matchs. Yannick Sinner, qui s'est défait malheureusement du français Richard Gasquet en 3-7, 6-4, 6-2, 6-4, affrontera le russe Kotov. Dans les autres matchs qui restent à jouer, on pourra noter Alex de Minaur qui affrontera Munar pour les Australiens, ou encore Kokkinakis qui affrontera l'Italien Zeppieri. Du côté du tableau féminin, Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, s'est défait de Osaka très difficilement, hein, sur un score de 7-6, 1-6, 7-5, un match très serré, mais la Polonaise est donc qualifiée pour le troisième tour, tout comme Coco Gauff qui s'est défaite de Zidansek sur le score de 6-3, 6-4. Kenin, ancienne vainqueur du tournoi ici en Australie, eh bien, a battu la française Caroline Garcia sur le score sec de 6-3, 6-3. Léonce Jabeur, la Tunisienne, s'est qualifiée face à Osorio. D'ailleurs, on écoute la Tunisienne Léonce Jabeur.
Obviously, I am what I am today, and if people not talking about me like they're talking about Iga or Arena or Rybakina, it's for a reason, you know. I just want to have what I deserve. I deserve to be in the spot 8 or 9 because Pegula pulled out, but yeah, that's tennis. I am hanging in there. I'm trying, you know, to get back to my level or at least very close to the level that I was in. It's not easy, you know, but nothing is sure about tennis. You can play unbelievable and lose. You know, now I feel like it's the season to watch tennis. You know, in every Grand Slam, a lot of matches going on. So as soon as I open the TV, I'm curious to see, you know, how others are playing, men or women. Try to not be obsessed with tennis at the same time, because sometimes I was like, okay, I don't want to talk about tennis anymore. I just want to relax and disconnect a little bit and come back to see again a few matches.
Voilà, Léonce Jabeur qui répond aux questions sur peut-être un petit manque de notoriété au sein des journalistes pour la Tunisienne Léonce Jabeur, qui, je vous rappelle, a été numéro 2 mondial au plus haut de sa carrière. On revient un petit peu en arrière sur les premiers jours de ce tournoi de Roland-Garros avec, bien entendu, le dernier match de Rafael Nadal, sa défaite en 3-7 contre Zverev. L'analyse d'Antoine Grenier et de Patrick Mouratoglou, ce n'est peut-être pas la dernière fois qu'on voit Nadal ici même à Paris. On écoute.
L'Espagnol éliminé au premier tour, porte d'Auteuil pour la première fois de sa carrière dans son jardin. Là où il s'est imposé 14 fois, Nadal n'a pu que constater l'écart qui le sépare désormais du top niveau mondial. Défaite en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3 face au numéro 4 à l'ATP, l'Allemand Alexander Zverev. Beaucoup y ont vu le crépuscule d'un dieu de la terre battue, sans doute son chant du cygne. Mais pour d'autres, à l'image de Patrick Mouratoglou, ce match d'hier pourrait ne pas être le dernier de Nadal à Roland-Garros. L'ancien coach de Serena Williams pense qu'il y a des chances de revoir le Mallorquin l'an prochain porte d'Auteuil.
Il y avait tout pour qu'il perde sèchement et il a fait un match qui était loin d'être ridicule. Il ne s'est pas blessé. J'ai trouvé qu'il, de nouveau, il bougeait très correctement. Alors certes, il peut jouer beaucoup mieux, mais pour un premier match depuis longtemps, en ayant eu un minimum d'entraînement correct, j'ai trouvé que son niveau de jeu était très bon. Il était juste inconstant et c'est normal. Il manque cruellement de compétition, il manque d'entraînement, mais il n'y a aucune raison de penser que c'est son dernier Roland-Garros. C'est pas que son niveau a baissé, c'est juste qu'il n'a pas pu se préparer correctement. En fait, tout le monde a vu la même chose, mais l'analyse est différente. Certains disent, bah, en fait, il est plus capable de jouer comme avant. Ben non, il est capable, je pense, de jouer comme avant. Encore faut-il qu'il ait pu s'entraîner correctement et faire des compétitions. Donc finalement, c'est son état physique qui va décider s'il rejoue l'année prochaine ou pas.
Voilà, donc Patrick Mouratoglou, qui a été, je vous rappelle, l'entraîneur de Serena Williams, c'est un grand monsieur du tennis, un des plus grands coachs qui existent sur le tournoi. Retour en arrière également avec Alizé Cornet qui aura donc joué son dernier match de sa carrière à Paris. Elle souhaitait vraiment terminer sa carrière sur la terre de Roland-Garros. On écoute Alizé Cornet sur ce dernier match.
Ça a été plutôt apaisé en fait, ce qui était compliqué en fait, c'était de me projeter sur mon match en mode compétitrice, en essayant de me convaincre que je pouvais quand même gagner et pas déjà me projeter sur la cérémonie, sur les adieux, tout ça. En fait, c'était vraiment un exercice d'équilibriste de rester focus sur la mission qui était quand même d'essayer de battre Zing, parce que j'allais pas juste rentrer, faire de la figuration et partir, même si je savais que ça allait être difficile, que c'était une fille qui jouait très très bien. Donc il y a eu ce débrief de match, un peu avec Pierre hier soir, un peu ce matin. Mais il y avait aussi se préparer quand même, si ça se passait pas bien, à se préparer à ce qui allait suivre, à l'émotion peut-être qui allait arriver. Et puis après l'échauffement ce matin, oui, je me suis rendu compte que ça pouvait potentiellement être la dernière fois. Donc, mais pareil, toujours dans une dynamique d'être quand même dans le moment présent et dans ce que j'ai à faire, et pas déjà à me dire « ah, c'est la fin ». Voilà, maintenant je peux me le dire, c'est la fin et j'ai fait de mon mieux sur le court. Une fille qui me réussit pas trop, hein, qui m'agresse beaucoup, qui joue très bien et voilà, j'ai quand même fait de mon mieux. Pareil pour le discours, j'ai essayé de faire de mon mieux aussi et c'est vrai qu'avec l'émotion, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie au final.
Voilà, donc là, toujours très sympathique, Alizé Cornet va pouvoir se mettre à écrire son deuxième roman. Elle a écrit un très beau premier roman qui est sorti l'année dernière. Allez, on sort du tennis et on va parler des Paralympiques. Vous savez, on fait des portraits de temps en temps dans ce journal des sports sur les Jeux Olympiques et les Paralympiques qui arrivent. On vous parle de Guillaume Toucoulet, il est para-archer, l'équipe d'RFI l'a rencontré.
Le regard fixe et une languette sur les dents, Guillaume Toucoulet répète ses gammes sur des cibles, de près, en salle, puis aux 70 mètres réglementaires en extérieur. Une routine bien rodée pour ce natif de Bayonne, établi à Compiègne, à 80 km au nord de Paris, victime en 2010 d'un accident de moto qui lui fait perdre l'usage de son bras gauche. Pas de quoi décourager cet habitué des sports d'endurance, d'abord pratiquant d'aviron à haut niveau, avant de troquer en 2017, par hasard et surtout par défi, les rames contre des flèches. Une transition pas si compliquée à gérer grâce aux qualités qu'il a développées.
La forme physique m'a beaucoup aidé pour pouvoir tirer sur la corde. Et puis après, la concentration et la connaissance de son corps. J'avais pour habitude de me scanner quand je ramais. Donc là, j'ai pris la même habitude pendant que je tire. Ce qui me permet d'avoir des références solides pour reproduire tout le temps le même geste.
Petit échauffement là-dessus. Et puis après, on démarre avec les exercices sur la plateforme. Allez!
Tiré avec la bouche, l'archer basque a dû l'apprendre un peu sur le tas, car si l'accessoire utilisé est simple, la technique l'est beaucoup moins. Vincent Ibois, l'entraîneur en chef de l'équipe de France.
Ça reste très compliqué dans la mise en œuvre, parce qu'en fait, un archer qui tire avec ses doigts, sa corde vient toucher son visage, et là, il y a les repères que Guillaume ne peut pas avoir, puisque la corde, elle est devant lui, donc il perd tous ses contacts-là. Donc là, oui, il y a une difficulté de ce fait-là, et d'avoir une très bonne connaissance de son corps, ça l'a vraiment aidé à progresser à cette vitesse.
Les résultats, effectivement, ne tardent pas. Vice-champion du monde 2022, médaillé d'argent européen l'an passé, actuel numéro 2 au classement mondial, Guillaume Toucoulet peut très bien faire oublier à Paris sa frustration des Jeux paralympiques de Tokyo. Une élimination rapide, car l'expérience lui faisait encore défaut.
Je ne connaissais pas assez bien ma façon de tirer. Et du coup, entre le qualif et les matchs, j'ai cassé mon matériel. Même si on a réparé comme on a pu, j'ai jamais pu retrouver un réglage optimal. Et donc après, ça m'a grignoté dans la tête. Je me suis fait sortir au premier tour. Depuis, j'ai fait les choses différemment. J'ai accepté un contrat un peu particulier pour avoir un peu plus de temps pour pouvoir m'entraîner, connaître un peu plus mon matériel. Donc du coup, c'était un bon pas en avant. Et ce qui après a lancé plusieurs choses derrière.
C'est 10, c'est Guillaume.
Avec désormais en point de mire cet été une médaille aux Invalides, où il emmènera dans son carquois des flèches en bois données par son fils, devenu son porte-bonheur.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
h 28 sur SBS French. On fait une courte pause, puis on se retrouve avec le journal de l'économie, présenté par Christophe Mallet avec Nicolas Perpich.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Comme chaque semaine, on va parler d'économie avec notre spécialiste dans la question, Nicolas Perpich. Salut Nicolas.
Salut Christophe.
Alors on va parler de la crise du logement qui continue en Australie et les loyers, ça commence à vraiment être un problème. Hein.
Ouais, malheureusement, c'est de pire en pire. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. En particulier dans les grandes villes. Là, il y a un rapport qui a été fait par un groupe qui s'appelle PropTrack. Et chaque année, ils regardent un peu le marché. Et là, on voit que, en fait, le nombre de locations, des appartements ou des maisons, à des prix abordables, c'est-à-dire en dessous de 400 dollars la semaine, ont presque disparu. Mais ça, c'est en même temps que les loyers, le prix des loyers monte en flèche. Donc, avant, au tout début de la pandémie, 43% de tous les propriétés à louer en Australie coûtait moins de 400 dollars la semaine. Et maintenant c'est juste 10,4%. Donc un quart, même pas un quart. Et ça, et même ce 10,4%, c'est un tiers plus bas qu'il y a un an. Donc ça a vraiment chuté énormément. Et quand on... Ça, c'est pour toute l'Australie entière. Donc si on regarde juste les capitales, les grandes villes, c'est juste 5,9% des propriétés qui coûtent moins de 400 dollars la semaine. Donc, presque, quasiment introuvable. Et c'est vraiment une crise si on est quelqu'un qui est peut-être étudiant ou juste on a un job qui ne paye pas énormément. Pour trouver quelque part pour habiter, c'est déjà très, très difficile. Et si on trouve quelque part qui n'est pas trop cher, il y aura 12, 20, 30, 40 autres personnes qui vont essayer de faire la même chose.
Ça a été un problème depuis très longtemps, mais là, ça s'envenime vraiment. On le sent. Hein.
Oui, vraiment. Parce que là, si on dit que la pandémie a commencé il y a 4 ans à peu près, donc en 4 ans, on est allé de pas loin de la moitié qui était en dessous de 400 dollars et maintenant c'est à peu près 1 sur 10. Donc ça a vraiment accéléré. C'est un peu un problème où on voit que il y a toujours plein de demandes, mais il y a pas assez de nouveaux constructions, il y a pas assez de nouveaux appartements, de nouvelles maisons qui sont en train d'être construites pour la population qui grandit. Donc la population qui grandit naturellement, mais aussi bien sûr l'immigration, les étudiants, tout ça. Donc c'est beaucoup de demandes, mais il n'y a pas l'investissement dans ce marché et les maisons qui sont là ne se font pas construire assez rapidement. Donc c'est des deux côtés, c'est trop lent pour en faire de nouvelles maisons et en même temps il y a de plus en plus de demandes. Donc c'est pour ça qu'on voit que ces deux flèches vont dans des sens différents et donc ça devient de plus en plus pointu malheureusement pour les gens qui cherchent. Donc c'est vraiment un énorme problème et on voit pas énormément d'activité. Le gouvernement dit qu'ils investissent des millions de dollars là-dessus, des milliards de dollars même, et peut-être que ça va aider au long terme, mais là, je sais pas comment c'est où vous habitez, mais chez moi, on voit des maisons, ça prend des années à construire une maison. Ça a l'air de faire construire, ça arrête pendant des mois. Ils attendent du matériel qui va venir d'un autre pays et ça prend très longtemps à venir. Donc
pendant un petit moment, le Covid a eu bon dos, mais c'est vrai que là, ça, c'est plus vraiment le Covid non plus. Hein. Donc il y a d'autres facteurs.
Oui, voilà, c'est ça. C'est aussi un manque de main d'œuvre. Il y a un manque de bricklayers ou un manque de tilers ou un manque de plein de compétences comme ça. Donc c'est vraiment un mélange de choses.
Ouais, tout à fait. Allez, on part sur un autre sujet. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on aime bien apprendre d'ailleurs, apprendre à en parler. Hein. C'est vraiment un nouveau monde pour tout le monde, y compris pour nous. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose d'intéressant, c'est cette IA, donc cette intelligence artificielle pourrait aider à faire des gâteaux dans les grandes boulangeries du Queensland. C'est intéressant ça.
Ah ouais, pas mal. C'est vraiment la commercialisation de l'intelligence artificielle et les pâtisseries. Donc
le meilleur des deux mondes, ça t'en dirait.
Ah, vraiment. Mais là, alors la prochaine fois qu'on entre dans une boulangerie à Brisbane, ça pourrait être un peu différent parce qu'ils vont avoir des robots. C'est dans une grande boulangerie là-bas, une des plus grandes en fait, qui s'appelle Priestley's Gourmet Delights, et il vient d'ouvrir une nouvelle boulangerie en tout, ça fait 7740 mètres carrés. Donc, c'est énorme. Et ils vont faire à peu près 270 000 produits de boulangerie chaque semaine. Donc, c'est pas vraiment une petite boulangerie du coin du tout, en fait. Mais là, ils vont avoir ils vont utiliser de l'intelligence artificielle pour faire la cuisine, carrément pour faire la cuisine. Donc, ils vont utiliser ça pour mélanger les ingrédients, mesurer les ingrédients et vraiment surveiller ça tout le long du processus. Donc, bien sûr, la question, c'est est-ce que les boulangers vont perdre leur poste? La boulangerie dit non, on va leur trouver d'autres choses différentes à faire, plus importantes. Mais bon, c'est vrai que cette intelligence artificielle, ces robots vont remplacer quand même quelques humains, ça c'est sûr, mais ils disent que de toutes les façons, ça sera des humains qui vont faire les décorations à la fin pour donner la touche humaine au gâteau quand même. Donc ça sera pas complètement artificiel, mais c'est sûr que chaque gâteau, chaque vanilla slice et les muffins vont être surveillés individuellement par les ordinateurs, par les algorithmes pour voir que c'est la bonne température, qu'ils sont dans le bon endroit de cette usine énorme. Donc, c'est vraiment une révolution. On appelle ça la quatrième révolution.
On vit dans un monde incroyable.
Voilà. Mais aussitôt que ça goûte aussi bien, ça c'est déjà quelque chose.
Mais voilà, c'est clair. Merci Nicolas.
Merci Christophe.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Vous êtes toujours sur SBS Radio, vous écoutez le programme en français, il est 13h38. Tout de suite, on vous propose la seconde partie de l'interview du groupe de musique légendaire, symbole du mouvement de la French Touch, le duo R.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et pour vous, Jean-Benoît, vous sentez qu'il y a un revival de ce mouvement? Est-ce que le monde est prêt aujourd'hui? Parce qu'il y a les modes reviennent d'une façon cyclique. Hein. Je serais tenté de dire 69 années érotiques, 2024 années olympiques. Il y a encore un focus sur Paris peut-être en ce moment. Est-ce qu'on peut espérer un rebond, un regain de cette musique, un retour avec peut-être des nouveaux artistes qui s'inspirent de vous?
Oui, pourquoi pas. Mais je sais pas si c'est bien en fait de essayer de reproduire quelque chose, parce qu'il faut plutôt partir sur autre chose pour créer quelque chose de nouveau. C'est ça qui est intéressant en art. Et en tous les cas, il y a nous on sent à notre échelle que le groupe en fait est remis en avant et qu'il y a une nouvelle génération qui aime le groupe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une tournée, c'est parce qu'il y a vraiment une nouvelle demande, quelque chose de frais qui est en train de se passer. Et peut-être qu'aussi, c'est aussi peut-être les jeunes générations, elles veulent revivre un peu peut-être le temps de leurs parents, ou alors c'est les années 2000 qui étaient en fait des années prospères, des années de liberté, et des années qui font rêver, des années un peu légendaires. Et nous, et peut-être d'autres gros groupes aussi, représentent ça. Et donc du coup, les gens veulent revivre ça à travers nous. Donc c'est tout ça qui se passe, mais je trouve qu'artistiquement il faudrait, non au contraire, en fait il faudrait que les artistes soient inspirés par notre liberté de création, mais qu'ils créent leur propre chose.
Et pour vous, Nicolas, cette idée de... Enfin, à l'époque, vous avez sorti des albums qui étaient encore des albums physiques, hein, en 98, on s'en rappelle tous. Bon, c'était tout à propos du CD, c'était un peu quirky de sortir un LP, mais aujourd'hui, tout est en streaming. Vous, ça, à votre avis, ça change la donne, ça? Vraiment sur la consommation de la musique, sur... Et peut-être sur votre développement en tant qu'artiste également, pour ce qui est à venir pour R.
Pour les gens de notre génération, l'idée de posséder un disque, il y avait quelque chose de magique, on l'avait, on l'achetait. Et à partir du moment où les choses sont gratuites, je ne sais pas si on a le même plaisir. Je me rappelle quand j'étais jeune, je jouais au flipper et aux jeux électroniques dans les cafés. Je sais pas si j'aurais eu le même plaisir si ça avait été gratuit, mais il fallait toujours mettre deux francs dans le pareil pour avoir la partie. Et ça faisait partie de l'excitation du truc, quoi. Et je sais que, et donc les disques jouaient un rôle énorme dans nos vies. Quand on s'achetait un disque, on mettait sur une cassette, on l'écoutait. Et on pouvait pendant un an, en allant à l'école tous les jours, écouter le même disque. Alors qu'aujourd'hui, le streaming a déclenché une surproduction de morceaux, et paradoxalement, ça privilégie les gens comme nous qui ont fait des disques dans le passé, des disques qui existent, qui ont les artistes qui ont une marque, et les gens et ces albums là apparaissent au milieu de toute cette abondance de streams. Ils apparaissent comme des montagnes auxquelles les gens peuvent se rattacher. Et paradoxalement, ce que le streaming privilégie plutôt les anciens artistes que les nouveaux artistes, sauf les nouveaux artistes qui sont vraiment les plus gros noms de la musique. Mais pour la classe moyenne comme nous, qui c'était ce qu'on représentait à l'époque de R, on n'était pas des géants qui remplissaient des stades, et on n'était pas non plus des petits débutants. On était un peu la zone du milieu. J'ai l'impression que cette zone-là, dans le monde de la musique aujourd'hui, t'aura disparaître, quoi. C'est un peu triste, quoi.
Allez, si on parle de l'avenir aujourd'hui pour R, là, vous faites cette tournée, vous rejouez Moon Safari dans son intégralité. Ça a réveillé une espèce de fibre créatrice pour vous, Jean-Benoît, une envie peut-être de réécrire un nouvel album. Je crois que le dernier album est quand même de 2014, donc ça fait 10 ans, il me semble.
2012,
est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de réécrire, de recomposer, de revenir sur le devant de la scène créative?
Je ne sais pas, on va voir. Dans tous les cas, c'est vrai que la tournée en fait ravise une certaine passion musicale, et je sais pas trop, mais après je sais que dans tous les cas c'était bien de s'arrêter, parce que pour faire une pause et pour découvrir autre chose. Et parfois, en fait, les groupes font des albums les uns à la suite des autres. Et c'est très dur de vraiment se renouveler complètement. Et donc, du coup, je crois que c'était bien d'arrêter un petit peu et de réfléchir. Bon, après, ça fait longtemps, ça fait 12 ans. Mais je sais pas. On verra.
D'accord. Et Nicolas, une dernière question là-dessus sur la pointe de créative. Est-ce qu'une tournée comme ça, avec tant de recul, quand on voit qu'on a toujours rempli les salles sur un album qu'on a créé il y a un petit moment quand même comme ça, est-ce qu'on arrive à se nourrir localement de choses? Alors je prends par exemple ici le didgeridoo, par exemple, parce que c'est un instrument qui vous a fasciné. Est-ce que ça vous fascine? Est-ce qu'on arrive dans une tournée mondiale à s'autoriser à s'intéresser aux instruments locaux? Ce qui peut aussi peut-être être une charnière pour la créativité à venir.
Ouais, nous, avec le synthétiseur analogique, on a toujours essayé de ressentir les choses organiques véhiculées par les instruments traditionnels. Et dans le didgeridoo, il y a un aspect comme ça guttural, et avec nos sons de synthé, on a essayé de reproduire certaines sensations qu'on entend même dans une safari, ou même dans plusieurs autres disques. Donc la magie du synthé analogique nous a jamais quitté, puisque grâce à ça on essaie de reproduire tout l'éventail des timbres disponibles dans l'instrumentation classique, et c'est le décalage entre ce qu'on arrive à faire et le son d'origine qui crée le charme et le mystère de notre son. Donc je dirais que indirectement tous les instruments traditionnels, que ce soit les instruments japonais, les instruments aborigènes, les instruments africains, des choses qui ont toujours fait partie de notre palette, mais à travers les synthétiseurs analogiques, on a toujours eu ça comme relais pour essayer de retranscrire ce qu'on entendait.
D'accord, c'était un réel plaisir de vous parler à tous les deux. Je voulais dire en micro, je suis fan depuis la première heure. On a tous un peu dansé hein, sur vos musiques et plus ou moins rapide, mais on s'est toujours en tout cas fait plaisir. Merci pour tout, merci de nous avoir fait vibrer, et surtout merci pour le temps que vous avez donné ici à Radio SBS.
Merci.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Allez, on vous en parlait en début d'émission, on vous propose maintenant de découvrir un court reportage de notre radio partenaire RFI. À quelques semaines des Jeux Olympiques, on vous propose de découvrir comment Paris s'adapte ou non pour permettre la circulation des personnes à mobilité réduite.
Le bus tente plusieurs manœuvres pour faire descendre la rampe handicapée, une planche inclinée pour faciliter l'accès du fauteuil roulant. Jérôme Rousseau se heurte souvent à ce genre de difficultés.
Là, on voit qu'il y a un problème, donc là... Sur un coup comme ça, bah là, le poteau gêne. Donc, bon, non, il a réinsisté. Donc, en fait, il faut qu'il avance un petit peu. Voilà. Merci, monsieur.
Une fois monté dans le bus, les choses ne sont pas plus faciles quand il s'agit d'appuyer sur le bouton pour demander l'arrêt.
Il y a des boutons là pour appuyer, mais moi, je n'ai pas la force et j'ai pas accès, en fait. Le bouton est très très bas. Donc dans mon quotidien, c'est que quand je rentre, je dis où est-ce que je vais. Mais le problème, c'est que si le chauffeur oublie et que je le dis pas avant ou qu'il m'entend pas, et là du coup, je suis obligé de descendre à l'arrêt d'après.
Pour conduire son fauteuil roulant de 300 kg, Jérôme Rousseau actionne une petite manette à l'aide de la main droite. Et la dextérité avec laquelle il manie son fauteuil impressionne. Mais elle ne suffit pas pour se déplacer aisément dans la ville.
Donc là, on est descendu. On voit des pavés, les pavés, c'est un vrai enfer quand on est en fauteuil. On est toujours dans l'anticipation. Là, en face, par exemple, je vois que sur un passage piéton, il y a des travaux. Si je traverse en face, il y a un camion noir qui est juste là. Et en fait, je ne peux pas du tout passer.
Jérôme est donc obligé de se déplacer sur la route à contresens.
C'est très dangereux. Je peux me faire renverser à n'importe quel moment. Là même, il y a des trous. Donc, c'est vraiment pas du tout adapté. Regardez, là, il y a un camion juste en face, bon, qui freine, mais c'est... Là, par exemple, je suis obligé de rouler à droite, ça. Mais il y a de l'eau au sol. Si je suis en fauteuil manuel, j'aurai les roues pleines d'urine, par exemple, peut-être. Donc, c'est... Moi, je suis en fauteuil électrique. S'il y a quelqu'un en fauteuil manuel, il se met vraiment en difficulté.
Et il s'agit maintenant de retourner sur le trottoir.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, le fauteuil fait 300 kilos. Donc, le fauteuil n'a pas la capacité de pouvoir... monter ce genre de marche. Les cale-pieds touchent et donc c'est vraiment se mettre en danger et mettre en danger son fauteuil.
Passionné de sport, Jérôme Rousseau fera partie des 350 000 personnes handicapées qui assisteront aux Jeux Olympiques. Mais en attendant les épreuves, les premiers obstacles à franchir se trouvent dans les rues de Paris.
Il est 13h57 sur SBS French. C'est l'heure du rappel des titres de ce jeudi 30 mai. Israël poursuit sa progression au cœur de la ville de Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, malgré l'arrêt de la Cour internationale de justice qui a ordonné la semaine dernière l'arrêt des opérations militaires. Des perquisitions hier au Parlement européen à une semaine des élections européennes. L'ex-assistant parlementaire de plusieurs eurodéputés d'extrême droite est soupçonné dans une affaire d'ingérence russe. Et puis en Australie, le ministre de l'Agriculture a annoncé ce jeudi la levée par la Chine de nouvelles sanctions sur les exportations australiennes. Plusieurs suspensions visant des exportateurs australiens de viande bovine ont été levées par Pékin. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french et sur toutes les plateformes de podcast. J'ai été très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français, en direct, ce sera samedi. Même fréquence, même heure. On se quitte en musique sur ce titre, Sexy Boy du duo français R. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi après-midi sur les ondes d'SBS Radio.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.